dream.
It's one small step for man,
pour une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 3 mai 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des protestations dans des universités ici aux États-Unis, voire ailleurs dans le monde. Le président Joe Biden a appelé jeudi au retour de l'ordre face à la mobilisation contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza qui agite les universités américaines après deux longues semaines de silence. Nous ne sommes pas un pays autoritaire qui réduit les gens au silence, a néanmoins assuré Joe Biden lors d'une courte allocution. Cette prise de parole survient après une série de démantèlements manu militari par la police de campements pro-palestiniens. Le dernier en date à l'Université de Californie à Los Angeles où elle a interpellé des dizaines d'étudiants. Depuis le 17 avril, une vague de mobilisation pour Gaza déferle sur les campus américains dans une quarantaine d'universités de la côte atlantique à la Californie, évoquant les manifestations contre la guerre du Vietnam. Pas moins de 2000 arrestations ont été effectuées. Les étudiants appellent en particulier les universités à couper les ponts avec des mécènes ou des entreprises liées à Israël et dénoncent l'appui quasi inconditionnel des États-Unis à leurs alliés engagés dans une campagne massive dans la bande de Gaza, en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre sur son sol. Nous parlons donc des protestations, de ces protestations dans des universités américaines et ailleurs dans le monde ce soir. Pour nous accompagner tout au long des minutes qui vont suivre, nous avons comme invité Jean-Germain Gros de l'Université de Saint-Louis dans le Missouri. Jean-Germain Gros, bonsoir, ravi de vous avoir encore parmi nous.
Oui, bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi.
Ici à Washington, DC, Calvin Dark est analyste politique et cofondateur de RC Communication. Calvin Dark, bonsoir. Merci encore pour votre disponibilité.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University à New York. Souleymane Bachir Diagne, bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'accueillir sur ce plateau.
C'est un plaisir. Jean-Germain Gros, je commence par vous. À la lumière des récents événements dans les universités concernant donc le conflit israélo-palestinien, quel est votre avis sur l'équilibre entre la liberté d'expression et le maintien de l'ordre sur les campus?
Bon, je pense qu'il doit y avoir un certain équilibre, mais les étudiants qui protestent contre ce qui se passe dans la bande de Gaza, ils ont tout le droit de protester. Et jusqu'à présent, la majorité des protestations semble être pacifiques. Donc, c'est un droit accordé à tous les Américains. De s'exprimer. Donc je trouve que c'est tout à fait normal que les étudiants puissent s'exprimer dans un contexte assez difficile, dans un contexte où le soutien du gouvernement des États-Unis à l'État d'Israël, comme vous l'avez mentionné plus haut, est quasiment illimité. Donc il n'y a pas d'autre option que de s'exprimer et de faire savoir que le public américain n'est pas tout à fait unanime sur la politique étrangère américaine concernant la crise israélo-palestinienne.
Alors, Calvin Dark, comment interprétez-vous les récents commentaires du président Biden concernant la situation à Gaza et les protestations dans les universités américaines? Est-ce qu'il n'a pas attendu trop longtemps avant de faire cette sortie et même que là, on a l'impression qu'il demande aux étudiants carrément et simplement de se taire.
Oui, oui, vous avez raison. La silence ne marchait pas pour Biden et en fait, il savait qu'il était dans une situation perdant-perdant. Et je crois que les républicains, ils ont vraiment profité de la situation politique pour prendre l'avantage. Parce que cette crise regroupe trois attaques politiques très efficaces pour les républicains contre Biden et les démocrates. Premièrement, toutes les scènes de chaos répandues à travers le pays font peur aux électeurs et ça symbolise, selon les républicains, le manque de leadership de Joe Biden et les maires gouverneurs démocrates parce que les images les plus frappantes viennent des villes bleues démocrates. Deuxièmement, les républicains qualifient tous les militants dans les manifestations d'antisémites, bien que ça ne soit pas exactement le cas, pour attaquer Biden sur le manque de soutien pour Israël et la communauté juive aux États-Unis. Et troisièmement, les républicains instrumentalisent les protestations afin de minimiser les conséquences politiques et juridiques pour Donald Trump pour les insurrections de 6 janvier. Parce que ils disent maintenant que c'était juste une manifestation enthousiaste. Et alors, si les démocrates ne prennent pas au sérieux ces manifestations dans les universités en cours, c'est la preuve qu'ils insistent sur le 6 janvier pour Trump, pour les raisons politiques et électorales seulement. Alors ça, c'est les avantages pour les républicains contre Biden et les démocrates.
Alors, Souleymane Bachir Diagne, l'Université de Columbia dans laquelle vous enseignez, a été au centre de ces manifestations. Au-delà des manifestations, quel rôle les universités pourraient-elles jouer dans le traitement des questions géopolitiques complexes telles que ce conflit israélo-palestinien?
Alors, vous l'avez dit, en ce moment, la comparaison avec 1968 joue pleinement parce que les choses en 1968 avaient commencé à Columbia. C'est le cas également cette fois-ci. Et mon université, Columbia, est en effet l'épicentre du mouvement. C'est à partir de Columbia que les choses se sont propagées. Et je crois qu'il faut placer ces événements justement dans un contexte géopolitique qui est assez extraordinaire dans la mesure où on a beau savoir maintenant que ces dernières décennies, les mouvements, les opinions des jeunes générations était plutôt en faveur des droits des Palestiniens, avait quelque chose de plus équilibré qu'avant, quand vous aviez une sorte de réflexe pro-israélien généralisé aux États-Unis. Ces choses-là avaient changé et les campus avaient été le théâtre de beaucoup de manifestations, souvent de pro-palestiniennes, mais on n'avait pas mesuré encore l'ampleur de ce mouvement et l'ampleur d'un changement de sensibilité qui fait que les jeunes générations d'étudiants en particulier, ont développé une sensibilité très grande à ce qui est l'état aujourd'hui des Palestiniens dans les territoires occupés dans les territoires de Gaza ou de la Cisjordanie. Eh bien, ceci a éclaté dans toute son ampleur. Ça a été une surprise. Ça a commencé à Columbia, mais ça s'est répandu très vite, vous l'avez rappelé, depuis la côte atlantique jusqu'à la côte du Pacifique. Les universités se sont massivement mobilisées. Et ceci est d'un réel poids. Il y a une influence géopolitique qui va en résulter dans la mesure où le monde politique ne peut pas ignorer l'ampleur de ces manifestations. Vous savez, pour continuer avec une autre comparaison possible avec 1968, et mon collègue Calvin Degg l'a expliqué tout à l'heure, dès qu'il est question de loi et d'ordre, ceci profite à la droite. C'est le cas dans tous les pays, c'est le cas également ici aux États-Unis. L'idée que les mouvements étudiants ont introduit un certain désordre et qu'il faudrait rétablir l'ordre, ce genre de discours profite toujours à la droite. Et les démocrates aujourd'hui se souviennent que l'un des effets de 1968 avait été précisément d'introduire une désorganisation totale de leur propre convention et ça avait eu également pour effet ultime l'élection de Richard Nixon. Et donc, voilà une conséquence qui peut avoir un poids géopolitique important, C'est la meilleure réponse qu'on puisse donner à votre question.
La réponse qu'elle a trouvée, elle a donné, je vous relance, Souleymane Bachir Ndiaye, lors du début de ces manifestations, la présidente de Colombie avait du mal à faire régner l'ordre. Elle a voulu faire venir la police, d'autres ont mal accueilli ça. Comment ça se présente aujourd'hui?
Alors justement, c'est malheureusement, ça, la conséquence a été une grande cassure aujourd'hui entre la présidente de l'Université de Columbia et les étudiants, bien entendu, mais également les professeurs. La communauté des professeurs et des étudiants a estimé qu'elle avait cédé bien facilement à une pression de l'aile la plus à droite du Parti républicain, parce qu'en définitive, l'interrogatoire qu'elle a subi au Congrès l'a amené à répondre dans le sens qui aurait été le sens voulu par les républicains qui l'interrogeaient. Et l'une des conséquences, c'est que le lendemain de cette audience au Congrès, elle fait venir la police, alors que le chef de la police new-yorkaise lui-même a dit que les manifestations étaient des manifestations dans le calme et dans la paix. Il n'y avait pas de danger à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que la réponse à cette intervention de la police a été la mobilisation des professeurs. Nous nous sommes mobilisés pour rappeler que nos étudiants avaient le droit de s'exprimer librement. Et nous avons également rappelé que l'intervention de la police ne s'imposait pas à ce moment-là. Et la réponse des étudiants, ça a été une nouvelle mobilisation, une nouvelle montée des tentes. Et c'est cela qui a abouti à une deuxième intervention de la police. Mais la fracture est très grande en ce moment entre les administrations des universités et la communauté universitaire, étudiants et enseignants ensemble, qui sont plutôt, eux, du côté de la défense de la liberté d'expression, de la liberté de manifester.
Alors, Jean-Germain Gros, est-ce que les universités devraient justement prendre position sur des questions politiques telles que le conflit à Gaza, ou est-ce qu'elles devraient rester neutres?
Non, tout à fait. Les universités font partie de la société. Donc, et c'est au sein des universités qu'on procure les formations aux jeunes. Donc, il serait peut-être naïf de penser que les universités puissent rester neutres. Ce sont les centres névralgiques du savoir. Donc, il est tout à fait normal pour moi d'avoir des étudiants, des membres des facultés, de s'exprimer sur des questions vraiment importantes, des questions géopolitiques, telles que ce qui se passe dans la bande de Gaza et à Cisjordanie. Pour moi, c'est tout à fait normal. En fait, les universités ne feraient pas leur boulot s'ils resteraient neutres dans ces questions tout à fait primordiales.
Alors, Calvin Dark, quelles pourraient être les implications de ces manifestations dans la politique américaine? Nous sommes à quelques mois seulement de la présidentielle de novembre. Souleymane Bachir Ndiaye le relevait tout à l'heure, parlant des républicains, parlant de Nixon. Est-ce que tout ceci ne va pas faire tomber Biden?
Oui, je crois que c'est possible parce que c'est évident que Biden ne changera pas sa position, en fait. Et il a dit autant hier. Et après la question, est-ce que ces manifestations ont arrivé à changer son opinion? Il a dit clairement non. Alors, il peut-être va changer ses mots, mais ses actions vont rester la même. Et le problème, c'est que normalement, les affaires étrangères n'est pas une priorité pour les électeurs américains. Et c'est pas le cas dans ces élections. Mais le truc, c'est que la différence pour le gagnant va être très, très, très court. Alors, je sais que même si 10, 20% de ces étudiants restent à la maison, pas qu'ils changent leur vote à Trump, mais restent à la maison à cause de ces manifestations, ça peut faire la différence dans quelques états swing, comme Wisconsin et Michigan. Et ça peut changer les résultats de l'élection. Et je sais que les démocrates et Biden sont conscients de ça et ils ont peur de ça pour leur conférence.
Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, les démocrates? Que doit faire Joe Biden pour maintenir le cap?
Je crois que ce que j'ai vu le plus efficace jusqu'à ce point, c'est de vraiment admettre sa politique, que sa politique ne correspond pas aux demandes des manifestants, mais la politique Biden, c'est beaucoup, beaucoup mieux pour la situation à Gaza, par exemple, que l'alternative Trump. Et j'ai vu cet argument, c'est très efficace avec les jeunes. Même s'ils pensent que Biden doit vraiment changer ses actions, ils savent déjà que Trump a dit qu'il va tout refaire et pas dans la manière qu'ils veulent.
Souleymane Bachir Diagne, dans son allocution, Joe Biden souligne que les États-Unis ne sont pas un pays autoritaire qui réduit les gens au silence. Comment se positionne la liberté académique dans des discussions sur des sujets controversés comme le conflit israélo-palestinien?
Alors, vous avez raison, le président Biden a rappelé, et ça c'était une manière d'équilibrer son discours de rappel à l'ordre, si vous voulez. Il a essayé d'affirmer à la fois le principe d'une liberté d'expression que, comme vous le savez, aux États-Unis est un absolu. Le premier amendement est véritablement un absolu. Rien ne s'oppose à ce qu'on exprime ses opinions, y compris les opinions les plus outrancières possibles. Maintenant, les universités, qui sont des espaces privés, ont également des politiques particulières pour encadrer cette liberté d'expression. Mmh. Elles peuvent décider que les manières de manifester sur le campus doivent obéir à un certain nombre de principes, à des locations, des localisations particulières, etc. C'est donc là-dessus que les différentes administrations des universités jouent. Mais il faut rappeler un principe fondamental, c'est que le monde académique est l'incarnation même de ce principe de liberté d'expression. Notre métier ne peut avoir lieu que si il crée un espace de libre argumentation où on peut s'exprimer sans crainte et sans peur de quoi que ce soit de son opinion et l'argumenter et échanger. L'enseignement, l'université, l'espace universitaire, c'est un lieu de dialogue et c'est cela la signification fondamentale des franchises universitaires. Alors, les franchises universitaires reposent sur cet usage de la liberté d'expression. Et donc ça doit être un absolu chez nous dans le monde académique de pouvoir manifester, de pouvoir argumenter, de pouvoir dialoguer. Et certaines universités ont réussi à construire un dialogue entre leurs étudiants et l'administration. On cite le cas de l'université de Brown, une autre Ivy League à côté de Columbia. On cite le cas de l'université de Northwestern, où l'administration a établi un dialogue avec les étudiants pour étudier précisément leurs revendications et voir en matière de désinvestissement ce que les étudiants demandent, ce qui est faisable, ce qui est possible.
Alors, Jean-Germain Gros, je voulais justement, pour la question suivante, vous parler de dialogue constructif et de compréhension mutuelle entre les étudiants et les opinions divergentes sur les conflits internationaux. À l'heure qu'il est, est-ce que les deux camps peuvent encore s'entendre? Je vais parler des étudiants et des responsables des universités. Tant que sur le terrain à Gaza, la paix ne règne pas.
Oui, il est toujours possible de s'entendre dès que les protagonismes ont décidé de s'écouter et de négocier de bonne foi. Je crois que dans une société démocratique, il y a toujours lieu de se parler et de trouver une entente, peut-être qui ne sera pas tout à fait parfaite, mais c'est là même la signification de toute négociation. On n'obtiendra jamais tout ce qu'on voudra, mais au moins on compte obtenir 50%. Donc s'il y a un esprit de coopération entre les administrateurs des universités et les étudiants, je pense qu'on pourra trouver une entente.
Alors, Calvin Darc, est-ce que ces protestations et discussions sur les campus pourraient influencer les politiques nationales ou même l'opinion publique concernant le soutien des États-Unis à Israël, un soutien qui, on le disait en début d'émission, est inconditionnel?
Je crois que ça, c'est une des conséquences de après 7 octobre pour les États-Unis. Je crois qu'il y a vraiment un besoin d'une réimagination de notre relation avec Israël et notre rôle dans la région. Mais le problème, c'est que l'obstacle, avec les manifestations, l'argument contre les manifestations, c'est que à la base, ils sont tous basés dans l'antisémitisme. Et si les choix sont l'antisémitisme jusqu'à changement de notre politique, on va parler de l'antisémitisme. Alors, je crois qu'après ces manifestations, si on peut vraiment avoir cette conversation, ça va être nécessaire, une réimagination de notre relation avec Israël.
Souleymane Bachir Diagne, on a vu ce mouvement s'étendre au-delà des États-Unis. Vous avez été en France, aujourd'hui même à Paris, les étudiants manifestent. Qu'est-ce qui peut expliquer cette prise, cet envol ou cette mobilisation générale internationale?
Oui, alors il faut éviter d'y voir simplement un effet de mimétisme. Ce n'est pas du mimétisme, c'est véritablement un phénomène générationnel, je crois. Je crois en effet qu'il y a une sensibilité des jeunes aujourd'hui à tout ce qui peut ressembler à l'oppression. Alors, on peut toujours discuter la situation d'Israël et de Palestine, mais la perception d'une majorité de jeunes aujourd'hui, c'est qu'il y a là une oppression des Palestiniens qui doit être réglée et leurs droits doivent être reconnus. Vous savez, pendant ces dernières années, on avait le sentiment que tout le monde s'était débarrassé de la question palestinienne. Le mouvement géopolitique, c'était un mouvement de normalisation entre Israël et les États arabes, dont en particulier l'Arabie saoudite, ce qui symboliquement était très fort. Des accords avaient été déjà signés, c'était mis en place, et on avait l'impression que la question palestinienne était une sorte de note de bas de page sur des accords qui allaient être conclus. Alors, ces événements terribles, l'attaque terroriste du 7 octobre et ensuite maintenant les bombardements de Gaza, ont remis la question palestinienne sur le terrain et les étudiants, avec la sensibilité qui est la leur, que ce soit ici en Amérique ou de l'autre côté de l'Atlantique, se sont emparés de cette question parce qu'elle correspond à ce qui les agite depuis deux décennies autour de la question de la justice sociale, de la lutte contre l'oppression et de toutes formes de discrimination et de déni des droits élémentaires. Et je crois que c'est cela qui fondamentalement explique que ce mouvement est déferlé comme cela dans le monde comme une vague irrésistible.
Et on arrive au terme de cette émission, quelques minutes encore pour chacun. On a vu d'ailleurs à votre suite, Souleymane Bachir Diagne, que la Turquie a revu ses relations avec Israël, l'Arabie Saoudite aussi. On va faire un dernier tour de table. Calvin Dark, comment juger la couverture de ces événements par les médias américains?
Je crois que maintenant, depuis les dernières deux semaines, les médias, ils trouvent que c'est beaucoup plus facile de couvrir les manifestations parce que les questions sont plus simples, antisémitisme, la question politique, au D'accord. lieu de vraiment parler de la situation qui est beaucoup plus compliquée D'accord. à Gaza et entre Israël. Oui.
Jean-Germain Gros, la réaction de la police dans les campus en quelques secondes.
Bon, dans certains cas, je crois que la réaction a été peut-être trop brutale, surtout à Columbia University. Je crois que nous sommes dans un carrefour où tout le monde doit faire preuve de modération, surtout du côté de la police.
Alors, puisque vous évoquez Columbia, Souleymane Bachir Diagne, comment les choses se présentent? Est-ce qu'on va arrêter le mouvement? C'est vous qui le menez, j'ai envie de dire.
Vous savez, aujourd'hui, les policiers sont présents sur le campus et la présidente leur a demandé de rester sur le campus jusqu'au 17 mai au moins. Le 17 mai, c'est deux jours après la graduation. Donc la graduation va probablement avoir lieu. Et nous venons de recevoir ce matin des emails, nous autres, nous autorisant à retourner à nos bureaux. Voilà.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, présentée par John Linden, production Georges Léonard Sagnot. Merci à Patrick, à la régie. Merci également à tous les auditeurs. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez réécouter cette émission, vous informer 24 heures sur 24. Au revoir. L'information revient avec Jean.